VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir, il est 17h à Lomé et 19h à Durban. Au Togo, les forces de sécurité ont voté aujourd'hui par anticipation pour la présidentielle prévue samedi pour le grand public. Idriss Fall.
Quelques 20 000 militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers étaient appelés aux urnes dans 214 bureaux de vote. Pour le colonel Kossi Akpovi, commandant de la force de sécurité de l'élection présidentielle, ce vote anticipé aidera à mieux gérer la sécurité des bureaux de vote samedi. Dans ce scrutin à un seul tour, le président sortant Faure Gnassingbé fait face à quatre candidats, dont Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Dans un communiqué, Amnesty International a dénoncé les agissements de l'armée, l'accusant d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants le 25 mars à Gléhi, au nord de Lomé. Les manifestations prévues par la synergie des travailleurs du Togo, une centrale syndicale, ont été interdites. Ces 20 dernières années, presque toutes les proclamations de résultats d'élections togolaises ont été suivies de violences meurtrières.
Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, va tenir son congrès ce week-end pour décider si oui ou non il va soumettre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat de 5 ans. Sa décision devrait être prise samedi, a dit le président du parti à l'agence Reuters. L'opposition burundaise affirme qu'une troisième candidature de Nkurunziza enfreindrait la constitution, ce que les partisans du président démentent. En République centrafricaine, le Forum inter-centrafricain de réconciliation nationale reporté. La concertation se tiendra finalement du 4 mai au 11 mai 2015 selon un décret publié aujourd'hui par la présidence de la transition. Ce report intervient en raison du calendrier du médiateur international de la crise centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui ne pourra pas assister à ses assises à la date initiale. Pendant ce temps, le vice-président du groupe armé RPCRC, une branche de l'ex-coalition Séléka Abdoulaye Sène, demande aux autorités de la transition de revoir à la hausse le nombre des quotas en vue de la tenue du forum de Bangui, ce qui concerne notamment les principaux acteurs de la crise centrafricaine, à savoir les anti-Balaka et les ex-Séléka. Nous l'écoutons au micro de Félix Yepassis Zembro.
En ce qui concerne le quota, nous avons crié haut et fort, c'est pas seulement ex-coalition Séléka. La revendication, ça régime dans les deux mouvements. Vous savez que les mouvements armés majeurs de ce pays, les acteurs de cette crise, il n'y a que deux, Anti-Balaka et ex-coalition Séléka. Aujourd'hui, si ces deux-là ne participent pas massivement, il n'y aura pas de solution. Et donc, nous avons 680 participants pour le forum. Il n'y a que 30 participants pour les deux mouvements. Ex-coalition Séléka, 15, et Anti-Balaka, 15. C'est inacceptable. Donc, nous avons dit non à cela. Nous avons demandé au gouvernement de revoir les listes et d'augmenter le quota pour l'Anti-Balaka et pour l'ex-coalition Séléka, pour que tous ceux qui sont dans l'arrière-pays, dans l'intérêt des pays, participent dans les forums pour trouver des solutions de sortie de crise définitive.
Il est 18h03.
VOA Afrique, en direct de Washington.
11 personnes ont été arrêtées hier soir à Johannesburg pour leur rôle présumé dans des violences xénophobes. Selon Reuters, c'est ce qu'a rapporté la télévision sud-africaine. Ils ont été appréhendés au cours d'une opération conjointe de la police et de l'armée dans un foyer de la capitale économique sud-africaine. Au moins 7 personnes ont été tuées lors des violences qui visent les immigrés à Durban et à Johannesburg. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, dont les ressortissants sont parmi les plus touchés des violences xénophobes, il a lancé un appel au calme ce mercredi sous la casquette du doyen du corps diplomatique accrédité auprès de l'Afrique du Sud. On écoute M. Bene Mpoko.
Si la situation se calme et que l'Afrique du Sud par la suite envoie des émissaires, surtout dans les pays dont les ressortissants ont été des victimes de ces attaques, je crois que le continent africain va comprendre. Ils vont comprendre que d'accord, ça est arrivé. On est en train de prendre des mesures et ils vont se poser la question de savoir comment nous, en tant que pays africain, on peut aider l'Afrique du Sud à mettre fin à cette situation. Ils ont réagi en retard, mais aujourd'hui, ils réagissent avec beaucoup d'efficacité pour éteindre le feu, pour ainsi dire.
Bené Mpoko, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'Afrique du Sud. Reporters sans frontières se félicite de l'arrestation d'un suspect en rapport avec le meurtre du journaliste Soleil Balanga, égorgé le 16 avril à Monkoutou, dans la province de l'Équateur, en RDC. Ce journaliste de la radio communautaire Monkoutou avait été attaqué alors qu'il revenait de la station. RSF réclame une enquête approfondie, déclare Claire Cantriber. Elle est responsable du bureau Afrique de l'ONG.
Donc la personne qui est responsable de cette agression est le fils du directeur de l'hôpital local. Et le journaliste avait annoncé à la radio un changement, une mutation, un changement de direction de l'hôpital qui avait été décidé par les autorités du lieu. Et voilà, et l'annonce de cette nouvelle aurait déplu apparemment au fils de ce directeur d'hôpital qui a décidé de prendre les choses en main de façon horriblement violente.
A-t-il été interpellé ?
Alors effectivement, oui, le présumé coupable a été arrêté et interpellé. On se félicite de savoir que le responsable de l'acte est en prison, mais on s'inquiète un peu quand même de voir que non seulement lui, mais en plus au total 5 personnes auraient été arrêtées, ce qui pourrait dénoter un peu un travers de la justice congolaise qui est d'arrêter massivement un tas de personnes pour montrer que quelque chose est fait, mais pas forcément en garantissant qu'une enquête approfondie et ciblée est menée.
Cléa Kanchriber de Reporters sans frontières qui était jointe par Camille Gros-Didier. En Guinée, 11 personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité pour le meurtre en 2014 de 8 membres d'une équipe qui était chargée d'informer la population sur les risques de l'épidémie de fièvre Ebola dans une zone reculée du pays, selon l'agence Reuters. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui un procureur. 15 autres accusés ont été innocentés et remis donc en liberté. Les corps de 8 personnes, dont 2 médecins et 3 journalistes, avaient été retrouvés en septembre à Omé, aux environs de la ville de Nzérékoré, à 1000 km au sud-est de la capitale Conakry. Amnesty International a appelé l'Union européenne à fournir des efforts humanitaires pour mettre fin à la tragédie des naufrages de migrants en Méditerranée. Dans un rapport publié ce mercredi à Paris, l'organisation a exhorté les dirigeants européens, lors de leur réunion demain à Bruxelles, d'autoriser immédiatement une opération humanitaire avec plus de navires, d'aéronefs et d'autres ressources pour patrouiller en Méditerranée et secourir des migrants lorsque leur vie est en danger. Les autorités européennes continuent d'enquêter sur le récent naufrage d'un bateau de migrants dans lequel environ 900 personnes ont péri et seulement 28 ont été secourues.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Yémen, les rebelles chiites houthis se sont emparés d'une base des forces du président Abd Rabbou Mansour Hadi à Taraz, où les combats se poursuivent, ainsi qu'à Aden dans le sud. Les précisions, Michel Joseph.
La chute de cette base a été suivie d'un raid aérien de la coalition arabe dans le secteur. Hier, l'Arabie Saoudite a déclaré la fin de la campagne aérienne qui, depuis un mois, visait à barrer la route aux rebelles appuyés par l'Iran. Mais, avait précisé Riyad hier, ce nouvel accent sur le soutien à une solution politique n'excluait pas des frappes pour empêcher les rebelles d'acquérir ou d'utiliser des armes de l'armée gouvernementale. Les Saoudiens ont également dit accorder la priorité à la reprise des pourparlers de paix parrainés par l'ONU. Ici à Washington, la Maison-Blanche s'est félicitée de la décision d'arrêter les bombardements et elle a appelé à une reprise rapide des négociations entre toutes les parties en présence au Yémen pour un processus de transition sans exclusive. Sa porte-parole, Jen Psaki, reconnaît cependant que l'instabilité continuait de prévaloir au Yémen et dans la région. Dans leur première réaction, les rebelles ont, eux, exigé l'arrêt total des raids aériens, la levée du blocus aérien et maritime, ainsi que la reprise du dialogue politique sous l'égide de l'ONU.
On termine cette nouvelle sur VOA Afrique avec des nouvelles du souverain pontife. Le pape François fera escale à Cuba sur le chemin de sa visite pontificale aux États-Unis, programmée fin septembre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Vatican. Le pape originaire d'Argentine a participé aux négociations secrètes qui ont abouti le 17 décembre à l'annonce simultanée par le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro d'une normalisation des relations entre Washington et la Havane. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce microphone. Prochain rendez-vous de l'information, c'est seulement dans 20 minutes dans Le Monde aujourd'hui avec Chérubin Dorsil et sa collègue du service VOA Africa. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info.